La marche du monde. Valérie Nivelon.
Bienvenue dans votre émission consacrée chaque semaine aux femmes et aux hommes, acteurs et témoins de l'histoire.
Il est impossible de cacher les actions de Staline. Nous sommes les héritiers de ce qui s'est passé à l'époque de l'URSS et nous ne laisserons pas manipuler cette histoire.
La voix de Natalia Solzhenitsyne dans La Marche du Monde, veuve d'Alexandre Solzhenitsyne, dissident et auteur de l'archipel du Goulag. Natalia Solzhenitsyne défend Mémorial International, la plus célèbre des ONG russes. Elle dénonce l'instrumentalisation de l'histoire soviétique par l'État, une cause à laquelle le plus grand spécialiste français du Goulag, Nicolas Werth, apporte tout son soutien en assumant la présidence de la filiale française de Mémorial.
Nous avons décidé de soutenir Mémorial International parce que Mémorial International a de grosses difficultés en ce moment, à la fois un étranglement financier et des persécutions réelles contre certains de ses membres, et puis parce que les questions soulevées par Mémorial International sont des questions qui dépassent de loin les frontières de la Russie. C'est-à-dire la question de la défense des droits de l'homme, la question de la mémoire des répressions, des crimes de masse en Union soviétique, qui sont des questions évidemment beaucoup moins connues en Occident et notamment en France que les questions, par exemple, des crimes de masse nazis.
La voix de Nicolas Werth, président de Mémorial France, la voix du grand historien spécialiste mondialement reconnu de l'histoire stalinienne, s'élève pour la défense du travail mené inlassablement par Mémorial International en Russie pour établir la liste des victimes du stalinisme et la carte des camps du Goulag et des villages de relégation. Pourquoi le travail de mémoire mené par Mémorial International dérange le pouvoir russe ? Dans quel contexte historique l'association est-elle née en 1989 et comment aujourd'hui transmettre cette mémoire des répressions en plein débat autour du déboulonnage des statues historiques? C'est une discussion très riche que je vous propose aujourd'hui dans La Marche du Monde où plus que jamais l'histoire peut nous aider à mieux comprendre l'actualité. Merci d'être avec nous sur RFI, où vous allez entendre de nombreuses voix historiennes dans un monde où les conflits de mémoire sont à la une de l'actualité. Nous retrouverons tout à l'heure Philippe Ménard pour la revue Mémoire en jeu, en duplex avec nous depuis Lille, une revue critique sur les enjeux de mémoire pour une discussion avec Guillaume Mazot, auteur aux éditions Anamosa du livre Histoire dans la collection Le mot est faible. Histoire, mémoire, répression. Ce sont les mots clés de notre émission, des mots que l'on peut lire sous la plume de notre première invitée, Luba Jorgensen. Здравствуйте, Luba.
Bonjour.
Bonjour et bienvenue dans La Marche du Monde, Luba Jorgensen. Vous êtes écrivain, traductrice, professeure de littérature russe à Sorbonne Université et vous êtes née à Moscou à la fin des années 50. Vos derniers ouvrages sont dédiés d'ailleurs à l'histoire du Goulag. Ils s'intitulent « Le Goulag, témoignages et archives ». C'est une édition d'ailleurs présentée avec Nicolas Werth en 2017 aux éditions Robert Laffont, un ouvrage qui fait date. « Le spectre du Goulag en France et en Italie » avec Claudia Pierali, ça c'est en 2019. Et apparaître en 2021, un livre que j'attends beaucoup, Le Semeur Dieu, votre monographie très attendue sur Varlam Shalamov. Alors tout ça pour rappeler combien vous êtes une femme d'écriture, Luba Jorgensen. Pourquoi aujourd'hui vous prenez aussi fortement la parole aux côtés de Nicolas Werth, que nous avons entendu en ouverture de cette émission?
Eh bien, pour moi, l'association Mémorial est mes amis et des collaborateurs de longue date, puisque c'est l'acteur principal de la mémoire aujourd'hui en Russie, sans lequel la mémoire, notamment des répressions soviétiques, ne s'éteindrait peut-être pas, mais serait totalement déformée, ou présentée sous un jour qui sert en fait plus les acteurs des violences que les victimes. Et donc la survie de cette association est absolument essentielle pour que la Russie garde encore un visage humain. Et donc, ça fait des années que je profite des fonds d'archives de Mémorial, des fonds photographiques. Mes recherches auraient été impossibles sans le soutien de l'association. Et voilà, je profite de cette émission pour saluer aussi la mémoire d'Arseni Roginski, qui nous a quittés il y a 2 ans.
Et voilà, qui est le fondateur.
Et qui est le fondateur depuis le début de l'association. Donc, oui, je ne conçois pas ce pays sans Mémorial international. Hein, international, ça veut dire qu'il est tout à fait légitime et souhaitable que des partenaires étrangers, notamment occidentaux, fassent partie véritablement de l'association.
Il y a d'ailleurs plusieurs filières en quelque sorte de Mémorial, donc la création de Mémorial France, dont le président est Nicolas Werth, dont vous faites partie, Luba Jorgensen, avec Alain Blum et Catherine Gousseff en tant que membre fondateur. Mais il y a d'autres Mémorials en Europe.
Il y en a d'autres, donc en Allemagne, en Italie. Mais nous avons tenu absolument à figurer, donc d'après nos statuts, comme précisément une filiale de Mémorial International pour rendre davantage visible son statut d'organisation internationale qui devrait la protéger un tout petit peu contre le label agent étranger que depuis quelques années, l'association est obligée de reporter sur toutes ses publications comme une sorte de sceau d'infamie. Voilà, l'idée c'est de montrer que effectivement nous sommes une organisation internationale.
Alors, vous travaillez bien sûr sur la mémoire de la répression soviétique. C'est l'occasion de redéfinir pour nos auditeurs ce système Goulag, hein, tel qu'il a pu fonctionner très largement sous Staline.
Le mot Goulag est employé un peu de manière universelle pour toutes les formes de répression soviétique, mais il faut rappeler que le Goulag en tant qu'institution est créé en 1930, c'est-à-dire au moment de la consolidation du pouvoir de Staline, et existera encore une fois en tant qu'institution jusqu'en 1956, grosso modo jusqu'au 20e congrès et la dénonciation des crimes staliniens, très partielle d'ailleurs. Mais la création des camps date pratiquement des lendemains de la Révolution. Ce ne sont pas encore les mêmes camps, ce sont plutôt des camps de prisonniers créés dans le cadre de la guerre civile. Le camp des Solovki s'ouvre dans les années 20 et servira de laboratoire du Goulag. Donc en fait, on a plusieurs périodes de l'existence des camps qu'on a tendance à appeler tous des goulags, mais le goulag à proprement parler, c'est 1930-1956. Les camps existeront aussi après.
Hein, donc alors voilà. Le goulag, c'est un système concentrationnaire, hein, on le rappelle, donc des camps, mais également des villages de relégation où l'on va pouvoir jeter donc des familles, des femmes, des enfants, des vieux, des jeunes. En quelque sorte, il s'agit de redresser et de créer l'homme nouveau dans cette nouvelle société post-révolutionnaire.
Il est vrai qu'on connaît relativement peu en France ce double système. D'une part, le système concentrationnaire, c'est-à-dire l'internement de personnes inculpées pour un crime très souvent inexistant, la plupart du temps. Et d'autre part, la déportation de communautés entières, de peuples entiers, qui sont déportés en tant que peuple ou communauté punie. Donc pas dans un but de rééducation, mais plutôt dans un but de les châtier. Et qui sont déportés avec les familles, effectivement, et connaîtront, sans avoir le statut de détenu du goulag, connaîtront des conditions qui sont parfois pires que celles du camp, avec une mortalité qui pourra, dans certains lieux, dépasser celle des camps. Et c'est une mortalité qui n'apparaît pas non plus dans les statistiques du goulag. Donc ça, il faut ajouter hein, tous ces morts, à ceux du goulag et de la Grande Terreur.
Un goulag dont il reste peu de traces dans le paysage Luba Jorgensen, dans l'actuelle Russie, sans compter, quand on revient en arrière, l'impossible accès aux archives jusqu'aux années 90 environ, et la chute justement de l'Union soviétique. Mais un système qui a été par contre très largement questionné dès la fin des années 80, hein, sous l'ère Gorbatchev, sous l'ère de la réforme. Et ce sont des années qui sont justement marquées par l'apparition de nombreux témoignages. Quels souvenirs, en tant que spécialiste de la littérature russe, en tant que spécialiste du goulag soviétique, vous gardez de cette période pleine d'espoir, Luba Jorgensen?
Eh bien, bon, d'abord, je voudrais dire à propos des traces que Mémorial est justement un acteur très très important pour la conservation ou la sauvegarde des dernières traces qui restent. Ces traces n'ont pas été détruites volontairement la plupart du temps. Bon, il y a des exceptions, mais la plupart du temps, elles ont simplement été laissées à l'action de la nature, qui dans les contrées souvent inhospitalières où étaient situés les camps, a très vite fait de les détruire. Et ça permet de rappeler qu'il s'agissait très souvent de régions qui n'ont été mises en valeur que par et pour les camps. Et lorsque les camps ont été démantelés, ces régions se sont retrouvées totalement sinistrées, ce qui fait que les habitants ont pillé ces traces à la recherche du moindre bout de fer, bout de bois, fenêtre, etc. Alors, la naissance l'association Mémorial remonte effectivement à cette période où a commencé à naître, à la faveur de la perestroïka, une vie associative qui n'était pas officialisée, qui avait parfois ses racines dans la clandestinité. Il s'agissait en l'occurrence de personnes, en tout cas Arseniy Roginsky, qui étaient eux-mêmes passés par les camps. Voilà, à un moment, l'association Mémorial a pu véritablement revendiquer une place dans la nouvelle configuration historico-mémorielle et se positionner comme acteur de la mémoire qui a son mot à dire dans la façon dont on voit les répressions soviétiques.
Alors justement, nous sommes à la fin des années 80, il y a des dissidents, vous avez cité Arseniy Roginsky qui est un ancien justement des camps, il y a aussi une jeunesse qui aspire à un autre mode de vie. Est-ce qu'on peut citer un peu les premières actions des pionniers de Mémorial?
C'était dans le cadre des lois sur la réhabilitation où Arseniy Roginsky parvient à négocier que l'Union soviétique soit définie comme un état criminel contre son propre peuple. Sur le moment, en 91, Roginsky, comme Mémorial, a l'impression que c'est un premier pas pour un travail de mémoire qui va enfin commencer. Or, c'est la première et la dernière fois.
Dans quel contexte historique l'association Mémorial est-elle née en 1989? C'est ce qu'a voulu comprendre également Daniel Valo, notre correspondant à Moscou. 33 ans après sa fondation par un groupe d'historiens et de militants des droits de l'homme, retour sur cette histoire mouvementée d'une ONG qui est née à la fin de la période soviétique et qui est aujourd'hui dans le collimateur des autorités russes.
C'est dans les bureaux moscovites de Mémorial que nous accueille Alexandre Tcherkassov. Ce spécialiste du Caucase est l'un des piliers de l'ONG qu'il a rejointe en 1989, 2 ans après sa création. L'URSS vivait alors ses toutes dernières années et Alexander était âgé de 23 ans seulement.
On croit à tort que Mémorial a été créé par d'anciens dissidents. Mais d'abord, il y a eu un groupe de jeunes qui a ensuite été rejoint par des vétérans de la dissidence. À cette époque, c'est cette cohabitation qui a fait la spécificité de Mémorial.
Deux générations et une double ambition, documenter les crimes du passé, mais aussi dénoncer les atteintes aux droits de l'homme perpétrées par le pouvoir en place.
L'objectif de Mémorial, c'était de créer des archives, un musée, une bibliothèque. Mais il était impossible de ne pas réagir aux événements qui se déroulaient au même moment avec l'éclatement de l'URSS. Nous ne pouvions parler des victimes du passé sans prêter attention à ce qui se passait ici et maintenant.
Dans les années 90, les militants de Mémorial peuvent travailler sur les archives de la répression stalinienne. Les descendants des victimes accèdent ainsi à des informations restées cachées durant des décennies, les motifs des arrestations, les lieux de détention et d'exécution. Mais la parenthèse sera de courte durée, comme nous l'explique Alexandre Tcherkassov.
Nous avons pu travailler plusieurs années sur les archives du KGB, mais ensuite elles se sont refermées. Ce n'est pas facile à dater, car ça s'est fait peu à peu. En revanche, sur l'enseignement de l'histoire, le tournant a eu lieu dans les années 2000. C'est Vladimir Poutine qui a fait de l'histoire l'un des piliers de sa politique. Et c'est à partir de là que s'est accrue la pression sur les historiens et sur Mémorial.
Dans le Caucase russe, les pressions exercées sur l'ONG tournent au drame, avec l'assassinat en 2009 de Natalia Estemirova. Viennent ensuite les procès contre Youp Titiev en Tchétchénie et Youri Dmitriev en Carélie. La pression est également financière avec les amendes infligées par la justice au nom de la loi sur les agents de l'étranger. Mémorial est une ONG en péril, mais Alexander Tcherkassov se veut malgré tout optimiste.
Vous savez, chaque audience au tribunal est couverte par la presse. Et à chaque fois, nous recevons des dons et des soutiens qui viennent de partout en Russie. Bien sûr, nous sommes loin d'avoir gagné la partie, mais pour le moment, nous avons survécu.
Pour le moment, nous avons survécu, nous dit Alexander Tcherkassov, l'un des piliers de l'association Mémorial International à Moscou, alors que les pressions exercées sur l'ONG n'ont jamais été aussi fortes avec le procès de Youri Dmitriev en Carélie. 15 ans de détention requis contre Youri Dmitriev, c'est la peine très lourde réclamée par l'accusation dans le procès intenté à l'historien russe de 64 ans. Pour l'ONG Mémorial, il s'agit d'un procès politique destiné à faire taire l'un de ses militants.
Pour les historiens du Goulag, le nom de Youri Dmitriev est associé à l'une des plus grandes découvertes de ces 25 dernières années. Le site de Sandarmor dans les forêts de Carélie, un lieu d'exécution massive où furent supprimés à la fin des années 30 plusieurs milliers de personnes. Irina Fliguier, historienne et membre de Mémorial.
Quand le site a été découvert en 1997, on ne connaissait les noms que d'un millier de victimes. Youri a fait un travail énorme pour retrouver les noms qui nous manquaient. Grâce à lui, nous connaissons désormais les identités de 6241 personnes exécutées à Sandarmor. Nous connaissons leur date de naissance, la date et le motif de leur arrestation. Sur tout le territoire de Russie, il n'y a aucune fosse commune de victimes des purges qui soit aussi bien documentée. Et cela, on le doit à Youri Dmitriev.
En 2016, une enquête est ouverte contre l'historien sur la foi d'une lettre anonyme. Accusé de pédopornographie à l'encontre de sa propre fille adoptive, Youri Dmitriev est d'abord acquitté par le tribunal chargé de l'affaire. Mais quelques mois plus tard, la procédure est relancée, un acharnement judiciaire aux yeux de Sergueï Davidis, en charge des prisonniers politiques au sein de l'ONG Mémorial.
L'État veut oublier les pages les plus sombres de notre histoire et il veut avoir le monopole du récit historique. L'activité de Youri Dmitriev était en contradiction avec cet objectif. C'est pour cette raison que nous estimons sa détention comme étant une détention à caractère politique. Et c'est pour cela que nous exigeons son acquittement.
Pour ses soutiens, Youri Dmitriev est coupable d'avoir découvert l'un des plus grands charniers de l'époque soviétique, mais également d'en avoir fait un lieu de recueillement et de rassemblement. À rebours du discours tenu par les autorités actuelles qui souhaitent réhabiliter la période stalinienne. C'est l'une des raisons qui a poussé Natalia Solzhenitsyn, la veuve de l'écrivain Alexandre Solzhenitsyn, à soutenir, elle aussi, Youri Dmitriev.
Il est impossible de cacher les actions de Staline. Nous sommes les héritiers de ce qui s'est passé à l'époque de l'URSS et aussi de ce qui s'est passé avant la Révolution. L'histoire, ce n'est pas seulement les relations entre la Russie et le monde extérieur. Nous avons eu également une guerre contre notre propre population et nous ne laisserons pas manipuler cette histoire.
Le procès Youri Dmitriev, le procès emblématique de l'instrumentalisation de l'histoire par le pouvoir russe. La toute nouvelle filière française de Mémorial International en fait sa une sur son site internet. Écoutez les explications de Nicolas Werth, son président.
Et il faut voir que cette affaire Mitriev, donc l'arrestation de cet historien, membre de Mémorial, découvreur de Sandarmor, est liée à une véritable révision historique de ce site, puisque une organisation d'historiens très liée au pouvoir, la Société d'histoire militaire de la Russie, prétend que les corps retrouvés à Sandarmor sont en partie des corps de prisonniers soviétiques fusillés par les Finlandais et non pas les corps des suppliciés de la Grande Terreur de 1937-38 fusillés par le NKVD. Et donc il y a là un nœud fondamental, il y a une révision du site de Sandarmor qui est en cours, à l'instar au fond du fameux site de Katyn où vous savez que les soviétiques avaient prétendu que c'était les nazis qui avaient assassiné les personnes à Katyn.
Instrumentalisation de l'histoire, réécriture de l'histoire de la répression soviétique, c'est tout l'objet de votre indignation, Luba Jurgensen, puisque aux côtés de Nicolas Vert, vous avez d'ailleurs signé avec Alain Blum et Catherine Gousseff une tribune dans le journal français Le Monde, où vous alertez sur l'effacement de la mémoire de la répression, et vous citez notamment une lettre de mission rédigée par le ministre de la Culture de la Carélie, il s'appelle Sergueï Soloviev. Il fait une lettre de mission pour cette fameuse Société d'histoire militaire de Russie où il écrit « Les spéculations sur le charnier de Sandarmor portent tort à l'image internationale de la Russie, renforcent dans l'opinion un sentiment de culpabilité injustifié vis-à-vis des soi-disant réprimés et deviennent un facteur de consolidation des forces anti-gouvernementales en Russie. » Que vous inspirent ces propos ?
Tout d'abord, comme à Nicolas, une analogie avec Katyn.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire qu'on utilise à Sandarmor les mêmes stratégies que celles qui ont été pendant des années utilisées autour du crime de Katyn. C'est-à-dire on attribue un crime soviétique à une puissance étrangère. Et à ce titre, on peut s'étonner pourquoi la Russie actuelle se veut absolument dans cette filiation soviétique et pourquoi un crime commis pendant la grande terreur soviétique, doit aujourd'hui ternir l'image de la Russie. Ça veut dire que la Russie se reconnaît comme héritière de l'Union soviétique. Et surtout, ce qui surprend, c'est à quel point les acteurs de cette manipulation ne comprennent pas que ce qui porte tort à l'image de la Russie, au niveau international, c'est tout d'abord ces tentatives d'effacer la mémoire.
Effectivement, et d'ailleurs, vous insistez avec Nicolas Vert sur la volonté de Vladimir Poutine d'asseoir sa légitimité sur un passé glorieux de la Russie. Donc, est-ce que ça veut dire que dans cette logique-là, l'histoire officielle russe ferait en quelque sorte le tri entre ce que l'on pourrait valoriser d'un passé soviétique et au contraire de ce qu'il faudrait occulter du passé soviétique?
L'histoire soviétique est devenue une sorte de parenthèse, une sorte de vague sur l'océan de la Russité éternelle. Et donc n'est plus considéré comme, enfin officiellement dans ce discours officiel, comme une période spécifique, mais comme une étape du développement de l'État russe, qui est le grand héros aujourd'hui de tous les discours.
Développement auquel finalement le système concentrationnaire du Goulag aurait participé, Luba Jurgensen, sous quelle forme ?
Eh bien, sous la forme justement de l'aménagement du territoire et de la colonisation des régions arides. Et c'est ce qu'on va retrouver précisément dans un certain nombre de musées. C'est ce dont parle Irina Flieg, que nous venons d'entendre dans un de ses articles sur les muséographies, sur les scénographies mémorielles des musées consacrés au Goulag, où la figure du chef du camp progressivement au fil des années a pris de plus en plus d'importance, le travail détenu faisant partie justement de ce passé glorieux, dans la mesure où il a contribué à l'industrialisation du pays. Et d'une certaine manière, la grande guerre patriotique c'est-à-dire la période de la lutte entre l'Union soviétique et l'Allemagne nazie, 41-45, qui est exaltée aujourd'hui. Cette victoire serait aussi due en partie à la contribution des industries gérées par les camps.
Merci Luba Jorgensen de nous accompagner depuis le début de cette émission consacrée à Mémorial et à la question de la transmission de la mémoire des répressions en plein débat autour du déboulonnage des statues historiques. À Vienne, la statue de Karl Luger, l'ancien maire antisémite de la capitale autrichienne entre 1897 et 1910, a été recouverte de peinture rouge au début de l'été 2020. La représentation dans l'espace public de celui qui inspira Hitler fait débat.
Ma famille a vécu dans la Vienne de Karl Luger et je crois que lorsque l'on passe devant sa statue, on pense tous à nos arrière-grands-parents. Dans mon cas, je pense à ma famille qui était membre de la communauté autrichienne, comme je le suis aujourd'hui, et qui dut faire face à une discrimination politique. Honorer quelqu'un qui a discriminé ma famille, c'est quelque chose que je ne peux pas accepter. Nous avons lancé cette pétition pour montrer aux politiques que de nombreux Viennois passent tous les jours devant cette statue et s'y intéressent et qu'ils n'acceptent pas l'idée que la perception de l'histoire ne peut pas évoluer.
La mairie de Vienne, elle, fait valoir qu'un panneau explicatif a déjà été apposé au pied de la statue en 2016. Véronika Kophas est en charge de la culture à la municipalité.
La stratégie de la ville n'est pas d'enlever ce monument. Nous préférons montrer cette blessure, cette pierre d'achoppement, mais en la mettant en contexte. Cette contextualisation est extrêmement importante, car selon moi, nous devons nous confronter aux situations complexes de notre histoire de manière consciente et de manière critique.
Insuffisant aux yeux de certains historiens comme Peter Autengruber, mais il existe selon lui une voie médiane entre la statue telle qu'elle existe aujourd'hui et son retrait pur et simple.
Ce genre de débat est toujours difficile, et c'est particulièrement le cas avec Luger, car c'est une personnalité aux multiples facettes. Mais il ne doit pas se résumer à une opposition entre les jeunes générations et celles plus âgées. Un consensus est, je crois, possible. Pour moi, une intervention artistique sur ce monument serait judicieuse. Elle permettrait de nous confronter réellement à cette histoire et de nous inciter à la réflexion.
Un débat d'autant plus important que d'autres lieux sont nommés d'après Karl Luger à Vienne et que des dizaines de rues portent le nom de personnalités problématiques comme Josef von Manowarda, chanteur d'opéra qui fut également membre du parti nazi. Isorias, Vienne, RFI.
Merci à Guillaume Mazot et à Philippe Ménard de nous avoir rejoints pour une discussion autour de la question du déboulonnage des statues. C'est un mouvement mondial, mais au fond, est-ce que ce n'est pas aussi un effacement du passé ? Je vous propose d'ouvrir le débat. Guillaume Mazot, je rappelle que vous êtes maître de conférences en histoire moderne à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Vous travaillez sur l'histoire de la Révolution française et sa conscience historique. Et votre dernier livre, intitulé « Histoire », est aux éditions Anna Moussa. À vous la parole.
Pour ce qui nous concerne ici, c'est-à-dire le déboulonnage des statues, qui concerne beaucoup le passé colonial dans les anciennes métropoles impériales occidentales, on va dire ça rapidement, essentiellement en Amérique et en Europe, il s'agit d'un mouvement qui, de mon point de vue, n'est pas du tout nouveau. Il a toujours accompagné les objets qui mettent à l'honneur des personnages dans l'espace public, puisqu'il s'agit de ça. Et dans les moments de changement de régime, dans les moments aussi d'insurrection, ou dans les moments tout simplement de prise de conscience, de changement de sensibilité, ça se traduit souvent par des actes que je ne qualifierais pas vraiment de vandalisme, puisque ce mot désigne un petit peu, depuis la Révolution française, une sorte de pulsion de destruction totale, sans raison. Alors que ces actes sont d'abord très très diversifiés. Là, qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu des anciens armateurs, des négociants, des colonialistes faire peinture lurée, arracher un bras, un peu moquer symboliquement. Donc je parlerai plutôt d'atteinte.
Ou alors comme dans le reportage en Autriche à Vienne, une statue de Karl Luger, qui à cause de son antisémitisme et à cause du fait qu'il ait pu aussi inspirer Hitler, a vu sa représentation, sa statue recouverte de peinture.
Oui, ou comme la statue de Gallieni à Paris qui s'est fait recouvert d'un voile noir. Donc il y a beaucoup d'actes très différents en fait, à partir d'un même mot qu'on emploie un peu toujours pour résumer ce qui se passe. Et alors est-ce qu'on tue le passé en faisant ça ? Ben moi je crois au contraire que c'est le passé vit à travers ses gestes. Il vit dans sa manière conflictuelle, tel qu'il a à peu près toujours existé, hors des livres d'histoire, on est bien dans la rue là. Et évidemment, c'est aussi tout ce qu'une société civile a envie de montrer, de se raconter d'elle-même et de son passé, qui vit de manière jamais tellement consensuel. Et donc je pense qu'au contraire, le passé ne vit jamais mieux que dans ces moments-là, même si ça peut poser problème, ça peut poser question.
Philippe Ménard, vous êtes avec nous depuis Lille, en duplex, grâce à France Bleu Nord. Je rappelle que vous dirigez la revue Mémoire en jeu, dont le dernier numéro propose un dossier consacré au croisement possible entre études mémorielles postcoloniales et de genre. Est-ce que, lorsqu'on s'attaque au statut, on fait de l'histoire citoyenne ?
En fait, on s'aperçoit qu'il y a une focalisation sur des individus, et c'est peut-être ce qui représente à la fois le côté stimulant pour une révision de l'histoire, d'une histoire officielle entre guillemets, et en même temps une limite, parce que derrière, que ce soit derrière Karl Lueger à Vienne, ou derrière Colbert, ou derrière tous ceux qui ont été déboulonnés, il y a aussi autre chose que des individus et leurs propres intentions, que ce soit antisémite ou raciste, ou peut-être même pas raciste pour les esclavagistes qui faisaient simplement du commerce, mais il y a quelque chose de plus structurel qui me semble ne pas être interrogé véritablement. C'est-à-dire qu'on va se focaliser sur les individus. Finalement, ça va être un peu comme une espèce de jeu de carnaval où on va déboulonner les statues. Aussi, en sachant bien qu'elles pourront être remises en place ou réinstallées ailleurs et remises en place comme il y en a été pour Staline en Russie, hein, dont on voit des effigies un petit peu partout maintenant, en tout cas à Moscou. Voilà, c'est tout le pan de l'histoire structurelle, tout le pan des conditions de possibilité à la fois politique et culturelle qui ont rendu possible que ce soit la traite des esclaves, ou que ce soit la Shoah, ou que ce soit le goulag. C'est-à-dire que le problème, il peut venir du fait qu'on va tout d'un coup se focaliser sur une figure. Alors on va lui lancer des pots de peinture, mais derrière ça, effectivement, on peut s'interroger sur est-ce que on va aller interroger quelque chose qui relève plus d'une histoire fonctionnelle et non pas simplement intentionnelle, et des mécanismes qui non seulement ont rendu possible ces événements et ces crimes, mais dont nos sociétés peuvent être, je ne parle pas de la Shoah, mais peuvent être héritières ou héritiers en ce qui concerne voilà, le lien entre Union soviétique et Russie, en ce qui concerne le système on peut dire économique dans lequel on vit et les colonies. Ne faut-il pas plutôt se servir peut-être effectivement de ces événements, mais pas simplement pour aller s'interroger sur boulonnage des boulonnages, qui de toute façon est cyclique dans l'histoire de l'humanité, mais plutôt sur, indépendamment de ce passage à l'acte, qui peut aussi être, on peut dire cathartique, hein, pour le dire rapidement, qu'est-ce qui structurellement fait que telle société, que ce soit la société russe aujourd'hui par rapport à l'Union soviétique, ou que ce soit la société occidentale aujourd'hui par rapport aux colonies, qu'est-ce qui fait que ces sociétés restent structurellement héritières de ce qui a fait que ces hommes qu'on vient déboulonner ont pu commettre ces crimes, intentionnellement ou non d'ailleurs, parce qu'ils ne savaient pas forcément, en ce qui concerne les esclavagistes en tout cas, l'ampleur des dégâts qui causaient, ou ils le savaient aussi, ça dépend aussi des cas.
Réflexion et interrogation de Philippe Ménard, donc directeur de la revue Mémoire en jeu, non-historien, qui vous interpelle, vous, historien, qui vous interrogez sur les usages de l'histoire, justement Guillaume Mazot. Est-ce que la question, elle est autour des individus, ou est-ce que la question, elle est autour de ces périodes historiques, Guillaume Mazot ?
Elle est autour des deux à la fois. En fait, ça fait presque un peu plus de deux siècles que notre système de mise à l'honneur public tourne autour des grands hommes, ce qu'on appelle les grands hommes.
Donc c'est l'écriture d'une histoire officielle, cette représentation dans la rue,
je dirais pas,
à travers ces statues.
Voilà, alors je dirais pas
qui vous interroge.
Officielle, puisque tout ça, ça passe notamment, je sais pas, par exemple, on peut prendre l'exemple en France, qu'est-ce qu'il faut pour donner un nom de rue ou ériger une statue, ça passe quand même par des procédures qui relèvent souvent des compétences municipales.
Et qui souvent viennent des citoyens eux-mêmes.
Voilà, mais donc ça vient d'un accord, c'est pas une histoire qui échapperait totalement à la société civile et dont la société civile serait complètement écartée, à laquelle elle serait soumise. En revanche, ces décisions, elles ne sont pas forcément représentatives de toute la population. Et quand même, pour laisser sa trace dans l'espace public, il faut avoir toute une série de compétences et de pouvoirs qui attestent de votre puissance sociale, de votre puissance politique, si ce sont des hommes majoritairement blancs. Je rappelle qu'il y a moins de 10% des statues qui figurent des femmes en France. Voilà. Si ce sont que très marginalement des figures de la radicalité politique, voire du monde colonial, qui sont représentées dans l'espace public, c'est évidemment, ça ne tient pas du tout du hasard. C'est que tout cela, finalement, reflète aussi les rapports de force d'une société qui se sont accumulés au travers du temps. C'est des rapports de force fossilisés, un petit peu dans l'espace. Et là où Philippe Minard disait quelque chose de très intéressant, c'est que pour certains, ça devient du patrimoine. Pour certains, ça peut être du passé, puisque certaines personnes ne sont aujourd'hui se sentent pas tellement concernés par que ce soit l'histoire, je sais pas moi, de l'antisémitisme ou du colonialisme. Et puis, certaines personnes, pour des raisons sociales, collectives et aussi personnelles, se sentent elles directement concernées et parfois deviennent concernées. Il suffit de certains événements, la mort de George Floyd aux États-Unis, la mort d'Adama Traoré, pour que des consciences émergent et que des passés refoulés reviennent, mais ils ne reviennent pas uniformément dans la société. Et c'est là que des débats peuvent arriver. Qu'est-ce qu'on fait de ces figures qui sont censées nous représenter ?
Qu'est-ce qu'on fait de ces figures qui sont censées nous représenter ? Philippe Ménard, je précise que vous n'êtes pas historien, justement. Et moi, ça m'amène à peut-être notre dernière question pour ce débat. Est-ce que cette question de la mémoire est celle du législateur ou est-ce qu'elle est celle de l'historien ? Je pense bien sûr à toutes ces lois mémorielles dont nous avons le charme et le chic en France.
Je pense que la mémoire, elle est le produit d'une convergence qui ne tient pas simplement au législateur ni à l'historien, qui eux ont un rapport, on peut dire, aux événements complètement différents, parce que le législateur va aboutir ou à des lois ou à des condamnations, alors que l'historien va quand même plutôt travailler sur, on peut le souhaiter, des conditions de possibilité, des phénomènes, essayer de rendre, d'avoir une intelligence de la réalité qui a eu lieu. Mais la mémoire, elle est aussi, elle s'ancre aussi dans la société à travers, alors on peut appeler ça l'histoire citoyenne, mais à travers quantité d'associations qui sont des associations privées, indépendantes, donc Mémorial en est évidemment une, et qui ont une importance très importante parce que précisément, il y a un moment de leur vie, en tout cas, qui n'est pas forcément le plus simple, qui est un moment militant. Ce que ne peut pas, on peut dire, la casquette militante ou l'action militante, évidemment, ne peut pas faire partie de l'historien en tant qu'historien disciplinaire. Il peut être militant à côté, ni en tant que législateur, même si à côté, il est militant. Donc, il y a cet aspect de l'action dans la société, cet aspect aussi du porteur de mémoire sociale et de voix qui, précisément, ne se font pas nécessairement entendre à travers des canaux officiels. Elle vient d'ailleurs que de la place du législateur et de la place de l'historien au sens disciplinaire du terme.
Guillaume Mazot, je vous pose la même question. Est-ce que cette gestion de la mémoire, on a abordé bien sûr la question des statues, mais ce n'est pas la seule. Il y a les plaques des rues, il y a la question de l'écriture de l'histoire, il y a ces débats autour des romans nationaux, il y a la façon dont les présidents, qu'ils s'appellent Emmanuel Macron, Vladimir Poutine, investissent le passé au profit de l'écriture de leur propre histoire de président. Est-ce que c'est une affaire de législateur ou est-ce que c'est une affaire d'historien ? Quel est votre point de vue, Guillaume Mazot ?
Alors, c'est l'affaire ni seulement des législateurs, ni seulement des historiens. C'est l'affaire de nous toutes et de nous tous. En réalité, le passé, il se laisse jamais attraper comme ça. Il vit de beaucoup de gestes, de beaucoup d'actes, de beaucoup d'associations qui participent à construire le passé et qui participent aussi à construire ce qu'on pourrait appeler l'histoire quand même, l'histoire commune. Alors, c'est pas la même tout à fait que celle des législateurs. C'est vrai qu'en France, on a cette tradition, dans beaucoup d'autres pays aussi, mais qui sont plutôt des dictatures, à utiliser l'histoire pour soumettre ou à utiliser l'histoire pour réguler les tensions sociales, pour raconter un récit commun. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le roman national. C'est d'ailleurs à cause de ce retour du roman national, c'est-à-dire ce récit de la nation qui est fondé sur l'admiration des grandes figures, etc., qui explique l'espèce de sentiment d'indignation qui accompagne ce renversement, ces peinturlurages de statues. C'est aussi à cause de ça. Mais ce que je veux dire, c'est que cette histoire-là, elle sort à peu près par tous les pores de la société. Et les historiens sont là aussi pour participer à cette construction collective à leur manière, avec leur méthode. C'est pas la même histoire que les autres qu'ils font. Hein. Ils font une histoire avec des méthodes, ils s'engagent à une éthique, etc. Mais ils sont, de mon point de vue en tout cas, pas là pour tenter de, ou prétendre la maîtriser ou donner des leçons à ceux qui... en fait, exercent leur droit, c'est-à-dire d'exercer leur droit à l'histoire ou au passé. C'est-à-dire à dire qu'eux aussi veulent participer à ce récit commun qu'est le passé dans nos rues, par exemple, ou dans l'espace public. Les livres d'histoire, c'est tout à fait autre chose.
Et le rôle du législateur, justement, est-ce qu'il n'est pas trop présent comme dans un pays comme la France, ou encore, on a cité l'exemple largement de la Russie aujourd'hui?
Alors, si vous posez la question à une historienne ou un historien, en général, il va vous répondre que oui, le législateur est souvent trop présent. On a beaucoup de lois mémorielles en France qui sont là, alors, parfois pour réguler des vrais problèmes, pour réguler par exemple la négation du génocide des Juifs, on peut considérer que ça a posé un problème d'ordre public et que ça heurte des communautés et que là, il faut réguler les excès, ce qu'on pourrait appeler les excès de la mémoire. En revanche, il faut toujours faire très très attention. Le passé, c'est pas quelque chose de neutre, c'est quelque chose de puissant. Et en réalité, accepter de le faire vivre et d'en discuter collectivement, c'est peut-être la meilleure des choses à faire.
Merci Guillaume Mazou et merci Philippe Ménard. En ce qui concerne l'exemple russe, écoutez le point de vue de Nicolas Werth sur l'usage de la réécriture de l'histoire en Russie. À l'occasion justement de ce procès Dmitriev, puisque je le rappelle, Vladimir Poutine conteste que les victimes de Sandarmor soient celles des grandes purges soviétiques.
Il est évident que on ne peut comprendre la réécriture de Sandarmor sans la lier à une histoire plus générale, c'est-à-dire en effet la glorification de la Grande Guerre patriotique, la réécriture de l'histoire de l'Union soviétique à la lumière, au fond, de la grandeur éternelle de la Russie. Donc tout ceci est lié, bien sûr, et la révision de Sandarmor n'est qu'un épisode dans cette histoire plus générale de réécriture de l'histoire qui, évidemment, est nécessaire pour tout régime autoritaire qui a besoin d'une base historique pour justifier son action et légitimer, au fond, son existence.
L'instrumentalisation de l'histoire, les conflits mémoriels, l'expression citoyenne dans la rue justement pour questionner la façon dont les grands personnages peuvent être mis en avant, la façon dont les romans nationaux peuvent être écrits. L'histoire est régulièrement à la une de l'actualité, c'est le cas en ce moment. Et en ce qui concerne cette mémoire du goulag, Luba Jurgensson, sur laquelle vous écrivez avec Nicolas Werth, depuis des années. Est-ce que l'écriture de l'histoire du goulag, elle ne souffre pas aussi des conflits de mémoire, puisque on voit bien qu'il y a l'histoire postcoloniale actuellement qui prend beaucoup de place. Est-ce que ça devient compliqué pour l'historien, finalement, pour l'écrivain que vous êtes, de conjuguer ces différentes approches mémorielles qui semblent se faire concurrence, Luba Jurgensson?
Alors, je ne sais pas si on peut parler vraiment de concurrence, puisque il est vrai que les questions liées au goulag restent très souvent tout simplement invisibles lorsqu'il s'agit d'études postcoloniales ou d'études de genre, ces études qui se développent aujourd'hui. Donc l'idée, c'est aussi de croiser les approches pour rendre davantage visibles certains aspects de cette histoire du goulag.
Alors comment faire justement ?
C'est compliqué, il faut je suis un peu au début de ce chantier, mais je me dis que dans la mesure où les camps ont servi entre autres pour l'aménagement du territoire et la colonisation
intérieure de l'Union soviétique,
des régions éloignées, eh bien je pense que les spécialistes du goulag et les spécialistes des études postcoloniales ont vraiment des choses à se dire. Le tout, c'est de les faire se rencontrer, ce que Philippe Ménard, justement, a fait dans ce dernier numéro de Mémoires en jeu.
Dans le numéro 10, oui.
Dans le numéro 10. Et voilà, et c'est une piste sur laquelle je pense continuer à réfléchir.
Mais j'aimerais en savoir plus, parce que vous avez écrit, notamment dans cette revue Mémoires en jeu, donc de quelle façon vous pouvez nous raconter, justement, justement le goulag, en conjuguant justement cette question de la mémoire postcoloniale avec celle de la répression soviétique.
Bon, il faut être prudent, c'est-à-dire ne pas enlever au goulag sa spécificité, parce que c'est quand même une institution concentrationnaire. Hein, donc il ne s'agit pas de dire que c'est une colonisation comme une autre. On peut comparer sans mettre un signe d'égalité entre les deux, et que cette comparaison nous mènerait vers une réflexion sur l'espace, et en fait c'est à partir de là, je pense qu'il faut, il y a des pistes encore inexplorées de réflexion sur la géographie du goulag.
Pour être très concret, oui. Luba Jorgensen, on peut donner l'exemple de déplacements de population. On parlait des pays baltes tout à l'heure. C'est-à-dire que massivement, on va déplacer des familles entières. On va les jeter aux confins de la Sibérie, par exemple, où il n'y a rien. Et au fond, ce sont des espèces de prisons à ciel ouvert où des familles entières vont être obligées, pour survivre, de construire et de coloniser un territoire.
Oui, mais à côté de ça, en fait, le goulag est un objet extrêmement complexe, parce qu'à côté de ça, les goulags qui sont placés dans des zones désertes vont être aussi des centres de civilisation.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que c'est là qu'on va trouver l'hôpital, le théâtre, la bibliothèque, etc. Et donc, c'est cette complexité qu'il s'agit de comprendre. C'est-à-dire le but des goulags, c'est d'industrialiser, mais aussi de civiliser, par exemple de sédentariser les peuples.
Alors les auditeurs ne voient pas, mais vous faites des petits gestes, vous dites civiliser, entre guillemets.
De sédentariser les peuples nomades, par exemple, de lutter contre l'islam dans les régions musulmanes, etc. Alors ces discours sont aussi portés par la littérature. Donc moi non plus, je ne suis pas historienne. Donc je pense qu'on peut aussi chercher des façons de comprendre cette colonisation à travers la littérature soviétique, qui ne parle pas des camps, bien sûr, mais où en filigrane apparaissent des politiques coloniales valorisées par le régime.
Pour faire un clin d'œil à nos chers statues, est-ce que justement dans ces camps, dans ces villages de relégation, on érige des statues ?
Dans ces régions, il y a souvent des statues qui sont érigées à des criminels. Prenons l'exemple d'Ekaterinbourg, on va trouver presque côte à côte la statue de Sverdlov, qui est un des assassins de la famille impériale, et bien sûr de multiples statues de Nicolas II qui a été assassiné par Sverdlov. Voilà un exemple d'éclectisme mémoriel, parce que les deux formes de commémoration sont perçues par les habitants comme faisant partie de leur patrimoine, justement. Mais à ce titre, je voudrais juste dire un mot sur précisément l'action mémorielle citoyenne. Ces dernières années en Russie, s'est développée une forme de commémoration extrêmement intéressante qui s'appelle « Dernière adresse » et qui consiste à poser une plaque à l'endroit d'où la future victime est partie, a été amenée lors de son arrestation. Et ces plaques, qui sont donc créées sur l'initiative des associations locales, on en voit un certain nombre aujourd'hui démantelées, déboulonnées, voire volées ou profanées avec des inscriptions obscènes, liées notamment au procès de Dmitriev. Dmitriev était accusé de pédophilie, hein, comme on le sait. Donc le combat mémoriel se déroule aussi sous les porches d'immeubles autour de ces initiatives citoyennes.
En Russie. Merci à tous, Luba Jorgensen, Nicolas Werth, Guillaume Mazot et Philippe Ménard. Tous vos livres, sites internet et revues sont à retrouver sur la page RFI de la Marche du Monde. Mémorial, transmettre la mémoire des répressions, c'était une Marche du Monde réalisée par Sophie Janin avec la complicité de Daniel Vallot à Moscou. Et dès la semaine prochaine, soyez au rendez-vous pour notre série d'été, le bal des indépendances. Exprimez-vous, podcastez, cette émission, c'est la vôtre.
Угрюмый, как шли мы по трапу на борт, в холодные мрачные трюмы, как шли мы по трапу на борт, в холодные мрачные трюмы, от качки страдали языка, ревела пучина морская.